Non, vous voulez pas que je joue de la guitare, hein? C'est ça, hein? Vous avez pas aimé ma présentation la semaine dernière. Bonjour à tout le monde. On est bien content de vous voir ce matin. Et si vous êtes ici pour la première fois, on est bien content de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue, une bienvenue particulière. On vous encourage à la fin du service d'aller au kiosque. Il y a un beau petit cadeau pour vous. Et si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre cheminement spirituel, alors vous avez juste à donner votre nom et votre adresse. Et puis on va vous contacter. On va vous accompagner, comme on le fait avec d'autres personnes à l'Assemblée qui veulent agrandir dans la parole. Il y a environ un an, juste dire bonjour à Gaétan. J'ai vu Gaétan de retour d'Afrique avec Ivy. Là, bienvenue. Ça a bien été? Oui. Tu vas à l'occasion, tu vas venir. De toute façon, éventuellement, là, tu pourrais venir faire un rapport, là. Nous raconter ça un peu, ce beau témoignage-là. Il y a environ un an, on a vu un article qui est paru dans le journal de Wall Street, vraiment intéressant, d'un ancien officier, un ancien agent qui travaillait pour la CIA, au gouvernement américain, qui se spécialisait à essayer de convertir des gens qu'ils deviennent des traîtres de leur pays, afin d'essayer d'avoir des documents secrets pour mieux connaître leur ennemi. Alors, cet ancien agent qui s'appelle Jason Matthews a fait quelques révélations pour nous aider à voir leur stratégie et leur manœuvre dont ils se servaient pour essayer de faire des traîtres. Il a travaillé pendant plus de 30 ans, donc c'est vraiment un expert, et c'était vraiment intéressant de voir le contenu qu'il donnait et les révélations qu'il faisait. Voici certaines des manœuvres pour recruter des traîtres. Il dit, pour commencer, vous devez gagner la confiance de la personne, évidemment. Il dit ensuite, vous devez cibler les aspirations de l'individu. Vous devez repérer ses peurs et ce qu'il désire. Vous avez besoin de savoir ce qui le motive afin d'exploiter ses vulnérabilités, afin de préparer son état d'esprit, afin qu'il accepte votre message, pour tranquillement le préparer à devenir un traître. Par exemple, l'une de ses vulnérabilités, c'est l'orgueil et l'ego. Il dit, on travaille beaucoup avec l'ego des gens. Il dit, on a besoin d'apprendre comment exploiter l'ego des gens. Matthews explique, la personne qui est motivée par l'ego est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il dit, une bénédiction, c'est sûr, parce que s'il dit, si tu flattes bien la personne, elle va être réceptive, motivée et concentrée. Mais il dit, le problème, le hic là-dedans, c'est que quand tu commences, ça finit pas. Il faut constamment que tu nourrisses la personne, que tu la flattes, parce qu'elle en demande de plus en plus. Elle aime ça, tu as nourri ça, et elle en veut encore plus. Donc là, c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. Parce que la personne va en vouloir davantage, elle va avoir des sauts d'humeur, elle sera exigeante. Puis il dit, l'ego est l'une des plus fortes motivations humaines. On va chercher des individus qui se cherchent un ego, qui ont été écrasés, soit par la déception de leur gouvernement, par des chambardements culturels. Et on va chercher ce genre de personnes-là et on va travailler avec eux autres. Il donne un exemple d'un cas vraiment particulier avec lequel ils ont travaillé. Il dit, par exemple, il dit, un agent a fait accroire à un individu dont le moral était vraiment à terre. Son identité propre avait été écrasée dans son pays. Donc, l'agent lui a donné quelques informations, les informations qu'il avait données, il les a transmises, et c'est ce qu'il lui a dit, il dit, nous avons transmis les informations que tu nous as données, les quelques informations secrètes que tu nous as données, je veux que tu saches qu'on s'en est servi, puis ça s'est rendu jusqu'à la Maison Blanche. Hey, le gars se sentait tellement important, il dit, ah, les informations que je vous ai données se sont rendues jusqu'à la Maison Blanche. Ah, il dit, oui, oui, il dit, puis je veux que tu saches que les gens ont vraiment apprécié ça. On parle de toi à la Maison Blanche, là. Hey, t'es vraiment quelqu'un, écoute, même il y a certaines personnes qui t'admirent. Ah, oui! Alors, cette petite technique, dit l'agent, vraiment simple, était assez pour mousser son ego au point de le convaincre de surmonter ses peurs et remettre un paquet de documents secrets parce qu'il pensait que ces documents se rendaient directement sur le bureau du président des États-Unis. Maintenant, ça, c'est des manœuvres. Vous allez dire, hein, franchement, c'est pas trop cocheux, cette affaire-là, et c'est vrai. Mais moi, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, puis on regarde, parce que vous savez, on a commencé dernièrement une série de messages sur les armes du chrétien. Et nous sommes arrêtés sur cette lettre magnifique, de la lettre aux Éphésiens. Écoutez, la lettre aux Éphésiens, il y a tellement de choses à dire sur cette lettre-là. Martin Lloyd-Jones a prêché au-delà de 232 sermons, juste sur la lettre aux Éphésiens, quand même une courte lettre, juste 6 chapitres, dont 68 de ces sermons, par exemple, ça concernait le passage que nous sommes en train de regarder dans les quelques semaines qui ont passé, qui vont suivre. On est en train de regarder ça, toute cette dimension du combat spirituel, et on veut s'arrêter sur les armes du chrétien. Maintenant, quand on regarde les manœuvres de la CIA, dans le fond, on s'arrête, puis tu regardes, et depuis quelques semaines, on s'arrête pour regarder les manœuvres de notre ennemi, qui est le diable, et on s'aperçoit qu'il y a des similitudes. Parce que c'est là que le diable, notre ennemi, travaille afin de nous ralentir et nous empêcher de devenir tout ce que l'on pourrait devenir dans le Seigneur. Et ça, c'est très important qu'on s'y arrête. On s'est arrêté là-dessus la semaine dernière et on est en train encore cette semaine, on va aller un petit peu plus loin dans ces manœuvres du diable parce que c'est vraiment le fondement, c'est la fondation qu'on a besoin, qu'on est en train de monter ici, sur lequel on va pouvoir imbriquer le reste du passage qui nous donne les armes du chrétien. Et ça, c'est vraiment le fondement, qu'on comprenne les manœuvres que le diable va se servir. Parce que le diable va justement se servir, comme on a commencé à voir la semaine dernière, des mensonges qu'il va introduire dans notre esprit, des pensées erronées, des erreurs, des mensonges, et ça va complètement fausser notre vision de ce que l'on vit, nos épreuves, les circonstances, des commentaires que des gens vont nous dire autour de nous, on va les interpréter, on va leur donner un sens. Et tout ça, c'est une manœuvre bien réfléchie. Après tout, il y a beaucoup d'expérience, le diable. Ça fait des centaines et des milliers d'années qu'il travaille. Il nous connaît. Il sait ce que ça prend pour essayer de nous décourager et de nous faire sombrer vraiment dans le découragement et même la dépression par moment. Et donc, on veut s'arrêter sur les manœuvres du diable afin de les repérer. Donc, moi, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens, si vous voulez bien. Éphésiens, chapitre 6. Et comme on l'a fait depuis quelques semaines, nous allons lire Éphésiens 6, verset 10, jusqu'au verset 13. Prenons le temps de prier, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons certainement te remercier pour tout ce que tu fais, te remercier pour ta révélation, pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui est la vérité. Et ce matin, nous avons besoin d'entendre ce que ton esprit veut nous dire et nous communiquer. On veut suivre ta parole, on veut obéir avec foi et avec joie tout ce que tu veux nous enseigner. Veuille illuminer les yeux de notre cœur afin que l'on puisse comprendre ce que tu veux nous transmettre sur cette question si importante qui est le combat du chrétien. Merci parce qu'on peut se fortifier en toi. Merci pour ce beau message encourageant que nous avons, que Paul nous a transmis sur cette puissance que nous avons, nous, les enfants de Dieu, pour faire face et résister à l'ennemi. Alors, dirige-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, Éphésiens, chapitre 6, si vous voulez bien, on va lire verset 10. En passant, si vous n'avez pas de Bible, on en a plusieurs en arrière, comme ça ici, second 21, et vous avez juste, si vous êtes nouveau ici, vous n'avez pas de Bible, vous avez juste à lever la main, les placeurs en arrière vont se faire un plaisir d'aller vous emporter un. Éphésiens 6, verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes en train de regarder le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Nous sommes en train de regarder les manœuvres du diable. Essentiellement, le diable a quelques manœuvres, mais on peut s'arrêter sur trois ou deux ou quelques manœuvres. Et ça, c'est vraiment la base de sa stratégie. Nous avons déjà cité quelques passages dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Apocalypse, où le diable est appelé l'accusateur des saints. On voit aussi Jésus lui-même qui dit que le diable, c'est le père du mensonge. C'est le spécialiste du mensonge. Quand les gens pensent au diable, ils pensent à ces manifestations extraordinaires qu'on est habitué de voir sur les écrans là, et les films d'Hollywood, les films comme Exorciste, ces films gigantesques où tu vois des têtes tourner, tout ça. Ça fait peur, des films d'horreur. C'est tellement populaire aujourd'hui, tous ces gros films d'Hollywood qui dépensent des millions à nous présenter le diable comme ça. Mais vous allez peut-être être surpris que ce phénomène-là, quand même, est assez récent. Certainement, Hollywood l'a popularisé. Avec tous ces films d'horreur. Mais si vous étiez pour consulter les vieux livres chrétiens, lorsque vous reculez puis vous êtes en train de regarder, consulter les vieux livres de chrétiens, on parle dans le temps des puritains et aussi au 17e siècle, vous allez être surpris que vous n'allez pas trouver ça lorsqu'ils parlent du diable. D'ailleurs, juste quelques livres qu'on peut mentionner ici, et on va en parler tantôt, mais ce qu'on va entendre plutôt parler, ce sont justement des manœuvres du diable. Comment le diable va se servir de certaines manœuvres, d'essayer par des mensonges, de nous décourager, va essayer de s'infiltrer dans notre façon de penser, de nous séduire, de nous tenter. Donc, c'est de cette façon-là que ces auteurs, ces grands hommes de Dieu, qui ont écrit plusieurs livres, des centaines de pages même sur le sujet, ils vont nous présenter le diable. D'ailleurs, ces manifestations plutôt extraordinaires et sensationnelles, vous allez les voir peut-être à 1%, 1,5%, peut-être un dixième de 1%. C'est vraiment pas beaucoup. Ces livres mettent plutôt l'accent sur le sujet dont on va parler justement aujourd'hui, qui sont les mensonges que le diable veut répandre dans notre esprit afin de fausser notre perception des choses, de fausser notre vision du monde et ce qui nous arrive, de donner une interprétation à des épreuves auxquelles on peut être exposé. Et toute notre façon de voir la vie. Un de ses auteurs, d'ailleurs, c'est William Gurnall. Ici, vous allez bien voir que c'est pas pris de la semaine dernière. C'est quand même, la mode a changé un tout petit peu depuis. Mais William Gurnall, c'est un de ses vieux livres qui a été écrit. Il a écrit vraiment une grosse brique juste sur ce combat spirituel. Un livre qui s'appelle, très populaire, devenu un classique d'ailleurs, « The Christian in Complete Armor ». Le chrétien revêtu de toute son armure. Maintenant disponible gratuitement en PDF sur l'Internet, si vous avez la patience de lire à peu près 800 pages dans le vieux anglais. C'est long, c'est tortueux, c'est dur. Il y a une version plus moderne qui a été écrite. D'ailleurs, tu peux l'avoir à 99 sous sur Kindle. Je pense que c'est l'original. Kindle, 1700 pages. Alors, je vous dis que... Mais vous allez être un expert après, hein? C'est certain, la version originale a 800 pages sur papier. Et tout le livre, essentiellement, c'est un exposé d'Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Justement, le passage que nous sommes en train de regarder dans notre série. D'ailleurs, on raconte que David Wilkerson, qu'on connaît bien par le film « La croix et le poignard » et tout ça, c'est ce pasteur qui est allé à New York dans les coins difficiles, hostiles pour présenter l'Évangile. David Wilkerson, il a reçu le livre, puis il voulait pas le lire. Il dit, ça n'a pas de bon sens, ces vieux livres puritains-là. Il dit, il trouverait pas le courage de commencer à lire. Mais finalement, pour une raison qu'on ignore, à un moment donné, il a pris le courage, puis il a commencé à lire le livre. Après 25 pages, il était à genoux, en train de prier. C'est vraiment bien. J'avais commencé à lire, puis c'est très édifiant, très inspirant. D'ailleurs, l'auteur de Grâce Infinie, John Newton raconte comment c'est un de ses livres préférés après la Bible. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que voici un homme de Dieu à l'époque des puritains. Vraiment un homme de Dieu. Quand on pense à ces bonhommes-là, à ces femmes-là de cette époque-là, c'est des gens très attachés, collés à la parole de Dieu. Et on pourrait penser que ces auteurs-là parleraient des manifestations assez extraordinaires du diable, mais non, c'est vraiment pas là où le livre va mettre l'accent. Leur livre va être très pratique. Gurnall, par exemple, va donner les ruses du diable, comment il s'en sert pour nous tenter. Il va présenter, par exemple, 18 manières que le diable va nous tenter, 32 manières comment le diable essaie de nous décourager, nous déprimer. Et lorsque ces enfants de Dieu, à l'époque des puritains, pensaient au diable, ils y pensaient en termes de mensonges. Ils pensaient aux manières que le diable s'y prend pour essayer de fausser notre conception de la vie, de chambarder notre façon de comprendre la vie et ce qui se passe dans notre vie. Et tout commence là, vraiment. Ce que tu crois. D'ailleurs, quand tu essaies d'aider quelqu'un qui a des problèmes, tu veux t'asseoir avec quelqu'un, tu l'aimes, tu veux l'aider, tu veux intervenir, tu veux l'appuyer, le soutenir, et tu commences à l'écouter, et tu vas commencer à écouter son expérience. Elle te raconte ce qu'elle vit et tout ça. Mais ce que tu veux faire aussi, c'est tranquillement essayer de repérer ces pensées erronées qui font partie maintenant de son système de croyance. Tu vas essayer de voir les mensonges qui sont là un peu parsemés, enracinés au fond de son cœur, qui lui donnent d'interpréter ce qu'elle vit à la lumière de ses convictions-là dans son système, imbriqué dans son système de croyance. Maintenant, évidemment, il y a certaines situations qui sont vraiment pas difficiles, qui sont vraiment pas faciles. Il y a des épreuves. On prend juste la pression au bureau, par exemple. C'est rendu très difficile. Il y a une pression maintenant dans les relations de travail. Moi, je me rappelle d'avoir vu, moi, je ne sais pas si c'est comment c'est chez vous, j'espère que ça va bien à votre travail, à votre milieu de travail. Moi, je me rappelle d'avoir vu dans un bureau deux femmes qui étaient secrétaires, et puis elles saillissaient tellement. Et qu'il y en a une, lorsqu'elle se croisait entre les bureaux, là, elle marchait entre les bureaux, il y en a une qui faisait exprès pour la bumper, l'accrocher, puis la tasser. Hey, imagine, là, c'est pas agréable. Là. Moi, je travaillais là, à ce moment-là, ils sont venus me voir dans mon bureau, me dire, écoute, il y en a une des filles, elle dit, écoute, moi, je suis plus capable. Là. Elle dit, fais quelque chose, je ne suis plus capable. Elle dit, moi, je m'en vais. Là, tu te composes avec ça, ces relations de travail-là. C'est vraiment pas facile. Il y a une étude qui est vraiment intéressante qui a été menée en Israël. Ça a duré pendant 20 ans, 1988 à 2008. Puis ils ont fait une étude sur les relations de travail pour découvrir finalement que, écoutez bien les statistiques, 86% en entrevue rapportaient que les gens manquaient de civilité à leur travail. Les gens étaient durs, hostiles, ils avaient de mauvaises manières, puis ils proféraient des insultes. Une étude pendant 20 ans menée parmi des centaines d'employés. Puis ce qu'ils remarquent, c'est que la pression augmente de plus en plus, ça ne s'améliore pas. D'ailleurs, une étude récente, on parle de 2011, c'est quand même assez récent pour des sondages, un sondage de 2011, les gens disaient essentiellement la même chose. Il dit, les gens sont de moins en moins civils, on a de moins en moins de support, c'est plus difficile, il y a la pression, les mauvaises manières, les gens sont durs, puis ils préfèrent des insultes. Maintenant, évidemment, c'est pas partout comme ça. Heureusement, je vous souhaite une atmosphère de travail qui soit agréable. Mais juste cette semaine, il y a une personne qui m'a parlé de son travail, puis elle me racontait de la pression qu'elle avait à son travail, puis c'était vraiment stressant puis décourageant. Déjà dans les premières heures de travail, il arrivait au bureau, puis c'était déjà après 2 heures, tu étais déjà découragé. Là. Vraiment pas évident. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que parfois, tu peux pas changer la situation. D'ailleurs, ce que j'ai appris en parlant à des employeurs et des chefs d'entreprise, j'ai découvert quelque chose qui m'a tellement étonné, j'étais ébloui. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens qu'on pense comme ça. Il semblerait que certains patrons font exprès pour laisser des conflits entre les employés parce que ça met de l'énergie dans le bureau, un esprit compétitif, puis ce qu'on espère, c'est t'inciter à travailler plus fort. Alors, imagine-toi donc, et je vous dis là, c'est vrai, moi j'étais là, je l'ai vu, je l'ai entendu, quelqu'un me dit exactement ça, là. Et c'était sa technique dans son bureau, là. Mais là, évidemment, c'est pas toujours comme ça, évidemment, c'est pas, heureusement, c'est pas toujours comme ça. Mais imagine-toi donc, tu te retrouves dans une situation que c'est comme ça. Toi, tu es un employé, tu es une des victimes, finalement, un employé qui se fait un peu barouetté par d'autres employés, tu vas voir ton patron pour avoir essayé de trouver un peu de compassion, qu'il fasse quelque chose, qu'il intervienne, puis La mentalité du patron, c'est « Non. Oh, je vais faire quelque chose. Je vais regarder ça, là. Puis, je vais essayer de t'aider. » Mais dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est essayer de t'inciter, il va te laisser faire, parce qu'il veut que tu travailles encore plus fort. Ça met de la compétition. Que tu deviennes meilleur encore. Imagine-toi donc. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu changes la situation? Tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves dans une situation, dans une épreuve, où tu n'es pas capable de changer les circonstances? Tu es pris dans cette circonstance-là, tu ne peux absolument rien faire pour changer. Qu'est-ce que tu peux changer? Tu ne peux pas changer grand-chose. Ben, tu pourrais dire, je m'en vais, c'est un choix. Mais il y a une autre chose que tu peux faire, et c'est là que le Seigneur veut nous emmener, parce que ce ne sera pas facile dans le monde. Là où le Seigneur veut nous emmener, c'est justement notre façon d'interpréter ce qui se passe. Le diable cherche à placer des mensonges en chacun de nous. Alors, vous et moi, on a besoin de trouver ces mensonges-là qui se logent justement au fond de notre cœur pour essayer de les déraciner. Parce que nous, on va donner des interprétations à tout ça. Alors, on va peut-être commencer à interpréter ça, que c'est notre faute, puis là, toute la vision de la vie va changer, ta vision de Dieu peut peut-être même changer. Comment ça se fait que Dieu fait rien? Comment ça se fait qu'il intervient pas, il m'aime pas? Alors là, le diable va profiter de ce moment vulnérable de ta vie où tu es faible pour essayer d'introduire des mensonges dans ta façon de penser. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans 2 Timothée chapitre 2 ce qui suit. Il dit, « Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité? Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable. » Maintenant, voici l'un des versets les plus puissants pour faire face au diable. Corriger les mensonges. Comment on agit avec le diable? 2 Timothée nous dit, c'est par la repentance. D'ailleurs, regardez une autre version, la version de Genève, qui dit ceci, le mot grec, c'est ça, la repentance. Changer d'attitude, ici, dans la version seconde, on parle de changer d'attitude, ça veut dire même affaire, essentiellement, c'est la repentance. On change d'attitude, on change de direction. Regardez dans la version Genève, dit, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors, c'est quoi la repentance? Eh bien, c'est voir la vérité et la saisir, la prendre et qu'elle affecte ta vie. C'est la seule façon de se sortir des griffes du diable. Le diable va se servir de plusieurs genres de mensonges pour nous agripper. Et on doit mettre le doigt sur les mensonges qui vont se loger au fond de notre cœur et qui vont nous mettre à l'envers, qui vont fausser notre vision des choses. Maintenant, on peut prendre ces mensonges-là un peu partout. Ça peut être des amis, des collègues de travail, ça peut être des parents même, ça peut être des collègues, les pères, ça peut être à la télévision. Mais d'où ça vient, c'est une chose. Qu'importe, ce qui est important, c'est de les trouver et les enlever. Par exemple, là, je vais donner une illustration, et c'est délicat. C'est délicat, l'illustration, parce que encore là, on pourrait tirer des conclusions. Je vais parler du piano. Admettons que tu as un piano à la maison, d'accord? Tu as un piano chez vous, et puis le pianiste est le diable. Aucune référence. Amiel, excuse-moi, je ne veux pas faire de lien avec toi. Désolé, je pensais pas du tout à toi. D'accord? Admettons que la pianiste, c'est le diable. Gardez cette image-là en tête, on va revenir tantôt. D'accord? C'est pas Amiel, c'est pas Amy, c'est pas Philippe, c'est le diable. D'accord? On revient là-dessus, tantôt. Gardez ça en tête. Alors, les mensonges sont le piano. Le pianiste est le diable. OK? Mensonge. Le piano, c'est le mensonge. Le pianiste, c'est le diable. Éphésiens 4, 26 dit ceci, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès, ne donnez pas de place sur le diable. Pourquoi es-tu si amer? Bien, je crois que telle personne pense ça de moi. T'en souviens, la semaine dernière, on a parlé de ça. Même des fois, quand on rentre dans l'église, déjà juste le temps qu'on rentre dans l'église, qu'on vient s'asseoir, déjà, on a fait un paquet d'interprétations dans notre tête, puis il y a bien des mensonges qui sont là. Il m'a pas parlé ce matin, c'est parce qu'il m'aime pas, c'est ça, il y a quelque chose contre moi, j'ai dit quelque chose cette semaine, puis c'est ça, vois-tu ce qui passe cette église-là, puis, plein de pensées dans ta tête, d'accord? Plein de pensées. Si tu penses que l'autre personne a gâché ta vie, tu vas gâcher ta vie parce que le diable va sauter là-dessus puis il va pousser encore plus fort. Puis il va te le faire, il va en mettre davantage. En d'autres mots, si tu remets le piano entre ses mains, il va jouer. Si tu lui donnes une pièce de musique qui est un mensonge, tu lui donnes, joue là-dessus, joue la pièce, il a gâché ma vie. Joue cette pièce-là, il va la jouer. Vois-tu, le diable va se servir du mensonge qui est là, puis il va même en introduire, il va en mettre davantage. On se compte des mensonges. Par exemple, c'est cette jeune adolescente, que je vous ai donc, j'ai déjà parlé de cette jeune adolescente de 16 ans à l'époque, qui fréquentait un garçon au secondaire. C'était l'amour de sa vie. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, le gars l'a laissé tomber. Il a dit, sais-tu, c'est fini, ça marche pas, je vais pas continuer la fréquentation, je veux que ça cesse. La fille, pour elle, c'était fini sa vie. Sa vie était finie, elle ne retrouverait jamais un gars comme lui, puis elle était tellement découragée qu'elle est allée dans le bain, elle s'est ouvert les poignets, puis elle est allée se coucher dans le bain, et elle attendait la mort. Heureusement, par miracle, c'est une famille qui vient de notre église, heureusement, par miracle, sa mère, qui normalement travaillait le jour, en pleine journée, a décidé de rentrer chez elle, plus tôt, à l'heure du midi, ce qu'elle ne faisait pas habituellement, elle a vu sa fille-là, elle a téléphoné à l'urgence, puis cette fille-là a été sauvée par la grâce de Dieu. Des années plus tard, cette fille-là est mariée, elle a des enfants, elle est heureuse avec un autre gars. Est-ce que c'était vrai que sa vie était finie? Non, mais elle croyait ce mensonge-là. Écoute, elle y croyait au point que c'était rendu au point dans sa vie qu'elle avait plus peur de la vie que de la mort. Mais c'était un mensonge, et c'est ça que le diable veut faire. Il veut mettre des mensonges, introduire des mensonges et se servir des mensonges qu'on peut croire. Alors, comment stopper l'influence du diable dans notre vie? Là, t'es pris, là, parce que toi, t'as un piano chez vous. Puis ça donne que le diable vient jouer du piano chez vous à 2h du matin. Hey, c'est fatigant, là. 2h du matin, tous les soirs. Tu sais, première nuit, pas pire, le bac, tout ça, du bac, c'est vraiment de la belle musique, c'est pas pire. Mais toi, tu travailles le lendemain. Fait que là, tu as besoin d'être en forme, tu veux travailler. Le lendemain, le diable vient chez vous, va jouer du piano dans ton salon, puis il joue encore, toutes les nuits de même. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, parce que tu veux lui dire d'arrêter, mais là, tu le vois pas, il est invisible. Le diable est invisible, le pianiste est invisible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, tu veux l'attraper, tu veux lui dire d'arrêter, mais tu le vois pas, tu veux le mettre dehors, t'es pas capable, il est invisible. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quel est le seul moyen de faire arrêter le diable de jouer du piano? Voilà! Sors le piano! Sors le mensonge! Vois-tu l'idée? Tu ne pourras pas te débarrasser du diable, mais tu peux te débarrasser du mensonge. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de repérer le mensonge sur lequel le diable va jouer pour nous décourager, nous briser, nous déprimer, nous ralentir, nous frustrer. Tu as besoin de le repérer, puis de l'arracher, puis de le sortir, puis ça presse. Quels sont les mensonges? Il faut que tu regardes, il faut que tu les repères. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le diable? Bien, il faut que tu enlèves le point d'appui du diable. En plein milieu, là. Tu attaques son point d'appui sur lequel il s'appuie pour te démolir. Tu attaques ce que tu vois. Tu sautes sur le mensonge. Tu l'attaques, tu le corriges par la vérité. Tu le questionnes, tu le confrontes, tu ne le laisses pas là. Alors, quels sont les mensonges que le diable peut servir pour nous piéger? Bien, premièrement, l'accusation. Les tentations aussi. Hein? Il va nous tenter. Le diable fait exactement le contraire que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, va te consoler, donne la paix, il est appelé le consolateur. Jésus a dit le consolateur va venir, il est un consolateur, il va te donner la paix. Lui, Satan, lui, il va te troubler. Il fait le contraire. Le Saint-Esprit te rend plus saint, il va te sanctifier, alors que le diable cherche à te tenter et te soulier. Alors, comment l'accusation et la tentation sont des mensonges? Bien, par la tentation, le diable essaie de te faire prendre le péché à la légère. C'est ça qu'il essaie de faire. Regarde les mensonges qu'ils te racontent. C'est pas grave. Tu vas le faire juste une fois. Tu peux toujours te repentir après, puis changer d'idée, puis revenir. C'est pas tellement grave. De toute façon, tout le monde le fait. Voyez-vous, les mensonges, on pourrait en compter de même 300. Facilement, 300 mensonges de même qu'on se raconte, que le diable nous raconte. Parce que, vois-tu, l'une des tentations, c'est de nous faire voir le péché à la légère. Comme on l'a déjà dit dans le passé, derrière chaque péché, mes amis, derrière chaque péché se cache un mensonge. D'accord? Derrière chaque péché se cache un mensonge. Si le diable te ment en te faisant prendre le péché à la légère, ça s'appelle la tentation, il te ment aussi en t'écrasant par le péché. Et ça, c'est l'accusation. Lorsque tu marches dans le péché, il va dire, sais-tu, tu vas pouvoir toujours te repentir plus tard, vas-y, c'est pas grave. Mais aussitôt que tu rentres dans le péché, tu commences à pécher, aussitôt que tu as franchi la ligne, qu'est-ce qu'il va dire? Regarde là, tu parles d'un chrétien. Ah, tu seras pas capable de t'en sortir, t'es pris. C'est drôle, hein? Au début, il dit, tu vas pouvoir toujours t'en sortir, puis tu vas pouvoir changer, mais une fois que tu as traversé la ligne, le diable vient, puis te met un mensonge, puis il te dit, mais regarde, qu'est-ce que t'as de l'air, là? T'as pas d'allure. Un chrétien, puis tu fais ça, puis là, il va t'accuser. Il t'écrase, il décourage. Alors, quand tu diriges vers le péché, il te dit, tu vas pouvoir t'en revenir, tu vas pouvoir t'en sortir, mais une fois que tu as franchi la ligne, tu ne pourras plus t'en sortir. C'est fini. Apocalypse 12, 10 dit ceci. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Vois-tu, le diable est un accusateur. Il n'arrête pas de t'accuser. Puis il veut t'écraser. Il veut te décourager. Satan essaie de nous faire pécher et nous empêcher de connaître la grâce de Dieu dans notre vie. Il veut nous empêcher de comprendre l'évangile de la grâce, de comprendre que nous sommes acceptés en Jésus. Il veut nous empêcher de comprendre que nous sommes juste en Jésus-Christ. C'est un accusateur. C'est ce qu'il a fait avec Job. Rappelez-vous de ce qui se passe avec Job dans ce passage, le premier chapitre, Job, chapitre 1, verset 8, qui dit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu et se détournant du mal. » Regardez bien ce que Satan va faire. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Vois-tu, il va chercher à souiller la réputation de Job. Le diable est en train de suggérer que Job a des intérêts personnels à servir Dieu. Alors il dit au Seigneur, « Enlève-lui ces bénédictions-là, puis tu vas voir comment il va te servir. Il va te renier. » Et c'est ce que le diable fait. Quand on connaît l'Évangile, on sait, on comprend que nous sommes pardonnés et on est acceptés en Jésus. Et là, notre façon de voir toute la vie est teintée par le message de l'Évangile. Ça change tout. Ça a un impact sur nous. Ça a un impact sur notre façon de voir la critique et de recevoir la critique. Ça a un impact sur notre façon de gérer la critique. Alors, le point, c'est que le chrétien est quelqu'un qui a cette assurance dans son cœur. Il a l'amour et l'acceptation de celui qui compte le plus, dans le fond, c'est Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que indépendamment qu'il vient te voir pour te critiquer, ça ne devrait pas te démolir. Oui, ça nous met en envers, ça nous rend triste, personne n'aime ça, évidemment, mais ça ne devrait pas nous démolir. Parce qu'on sait qu'on appartient à Dieu, notre vie est cachée dans le Seigneur. Savoir que nous sommes aimés et acceptés par celui qui compte le plus a non seulement un impact sur notre façon de gérer les critiques, mais ça a un impact aussi même dans notre vie prière. C'est sûr, ça va avoir des incidences dans notre vie prière. On va avoir plus d'assurance quand on va demander au Dieu qui nous a dit « demande, tu vas recevoir ». Puis si je te le donne pas tout de suite, je vais te donner quelque chose qui va être encore mieux pour toi, qui va te faire grandir, qui va te bénir encore plus. Hey, ça nous donne l'assurance, ça, de savoir accepter et aimer de cette façon-là. Celui à qui appartient toute la terre. Le chrétien qui a la certitude d'être accepté en Jésus-Christ est libre d'accusation. Il a cette puissante assurance à s'approcher de Dieu dans la prière. Ça nous donne un grand espoir, tout un espoir d'ailleurs. Le chrétien, c'est comme le gars qui a un gros compte en banque, comme la fille qui a tout un compte en banque, plein de richesses que Dieu a placées là. Maintenant, on peut aller là épuisé de cette richesse-là, où le diable peut nous faire croire qu'on est pauvre, qu'on n'a rien. Mais c'est absolument faux. On peut être plein d'assurance, plein d'audace, être intrépide, oser. On peut avoir d'assurance quand on prie. On est capable de prendre la critique, de bien la gérer, car on a une joie, on a une confiance dans notre cœur. On a une paix au fond de nous, par la personne qui est la plus importante, dans le fond. Et on sait qu'on est déjà accepté, qu'il nous aime. Le diable veut attaquer notre conscience. Il veut nous troubler. Presque chaque année, moi, j'ai des gens qui viennent me voir. Ils me posent des questions sur l'assurance du salut. Soit qu'ils ont agi d'une manière et tout ça dans leur vie, et là, tout d'un coup, ils sont troublés, sont vraiment préoccupés, sont à l'envers parce qu'ils questionnent leur salut. Et là, ils viennent me voir avec cette question. Là, quelqu'un est déjà allé voir Charles Spurgeon avec cette même question-là. Il dit, est-ce qu'on peut perdre le salut? Puis il dit, absolument pas. Il dit, regarde, vois-tu, c'est comme si tu étais sur un bateau et tu voyageais vers le ciel. Tu es dans le bateau. Tu ne pourras jamais tomber hors du bateau pour tomber dans la mer et te noyer. Jamais. Alors que tu es en train de voyager, tu es en chemin, tu es en voyage vers le ciel, tu es sur le bateau. Mais ce qui peut arriver, par exemple, c'est que tu peux glisser sur le bateau, puis tu peux tomber dans le bateau, puis te blesser, te fracturer. Et ce qui va arriver, c'est que tu ne profites pas autant du voyage. Tu n'auras pas autant de joie que tu pourrais avoir et bénéficier du voyage. Moi, quand je me suis marié, on a eu un voyage de noces à Miami. C'était la première fois que j'étais jeune, j'allais à Miami, United States. Et puis c'était la première fois, quand j'étais jeune, j'allais à Wildwood avec mes parents, puis tout ça, c'était tout excitant, on aimait ça, Wildwood. Mais là, c'est on prenait l'avion. La première fois dans ma vie, tu prends l'avion, tu t'en vas à Miami, puis tout ça, voyage de noces. Hey, c'est gros, ça. C'est wow! Miami, t'arrives, les palmiers, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. On se prépare, on est à la valise, on est à l'aéroport, tout excité, puis tout ça, tu es à l'aéroport, avec les valises, tout prêt. Petit quelque chose en dedans. Tu sais comment ça commence, un virus? Juste, t'hypocrite, juste, il y a quelque chose. Oh! Oh! Tu sais, ma femme était là, les parents, puis on avait du plaisir, puis quelque chose qui me disait, il me semble que je file pas, peut-être les nerfs, prendre l'avion. Hey, j'ai été malade. Voyage de noces, première semaine. Couché dans la chambre. Ta femme est sur la plage tout seul. Malade. La fièvre. T'appelles un médecin américain. Qu'est-ce qu'il dit? Are you sure you want me to go there? T'es-tu sûr que tu veux que j'aille là? Je peux y aller, là. Ça va coûter des bidous. T'es-tu sûr? Ben oui, non, correct. Hey, j'ai été malade. Gâché. Vois-tu, quand tu pêches, c'est comme un virus. Quand tu pêches, c'est pas que tu vas perdre ton salut. Non, tu es dans le bateau, tu glisses. Puis tu ne profiteras pas vraiment du voyage comme tu pourrais en profiter et jouir de la vie chrétienne, la joie de ton salut comme tu le ferais si tu marchais avec le Seigneur, puis tu te repentais, tu confessais tes fautes, etc. Pratiquer le péché, vivre dans le péché, tu vas avoir la difficulté. Mais le diable veut se servir de ça pour t'écraser, pour sombrer dans le découragement, pour te questionner, t'affaiblir. Maintenant, oui, là, tu vas dire, oui, mais le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne nous convainc pas de péché? Absolument, mais il y a une grosse différence quand le Saint-Esprit te convainc de péché et quand le diable te convainc de péché. Voici la différence. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, parce qu'effectivement, peut-être que tu as tombé dans le péché, voici comment le Saint-Esprit s'y prend. Premièrement, il va dire, hey, tu es parfaitement accepté dans le Seigneur, puis il t'aime. Alors, pourquoi tu agis de même? Le diable, c'est, tu agis de même, alors tu ne seras pas accepté. Est-ce que ça fait la différence? Ça fait toute la différence. Un s'inspire de l'amour, l'autre pour te détruire, dire comment tu n'es pas bon. Vois-tu ce que le diable fait, là? Le diable, ce qu'il veut faire, c'est de montrer ton bulletin en pleine face tous les jours. Bonne œuvre, hey, B moins, C peut-être, D. Prière, ta vie de prière, c'est aimer les autres, B+. Se réjouir toujours, ouais, c'est moins. Générosité, hein. Vois-tu, c'est ça que le diable fait. Le diable fais ça. Il te montre un bulletin pas bon. Regarde comment tu es pas bon tous les jours. C'est pourquoi tu fais ça? Parce qu'il veut te décourager, il veut t'empêcher d'avancer, t'empêcher de te réjouir dans le Seigneur. Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un bon avocat. Tu as le procureur qui est là et dit, regarde son bulletin. Là, tu as besoin d'un avocat, l'avocat de la défense qui s'en vient à la barre, puis il dit ceci, il fait un plaidoyer vibrant et c'est Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dit. Il dit dans Romains, Romains 8:1, qui dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, je pense que vous êtes prêts à dire un gros amen. Amen. Hey, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Veux-tu savoir quoi faire quand le diable t'accuse et essaie de t'influencer et de te décourager? Dieu nous donne une formule mathématique, les amis. Je vais vous la donner ce matin. Une formule mathématique qui marche à tout coup contre les accusations du diable. C'est une règle mathématique. Amen, Gilles. Gilles aime bien la mathématique. Là. Content, là, il jubile la mathématique. Regarde bien. Formule mathématique, ça marche à tout coup quand le diable veut venir puis te décourager. OK? Tu pratiques le rythme 10 pour 1. Voici la formule mathématique qui marche à tout coup quand le diable s'en vient et veut t'influencer puis te décourager. T'es prête? Vous la voici. Pour chaque regard sur tes péchés, regarde 10 fois sur Jésus. Prenez le temps. Voulez-vous prendre cette habitude-là cette semaine? Par la foi. Hein? Chaque fois que le diable vient, il te montre ton bulletin, il dit, regarde comment t'es pas bon. Lâche le bulletin. Regarde pas le bulletin. Tourne-toi et regarde à Jésus. Vois-tu, pour chaque regard sur tes péchés, regarde 10 fois vers Jésus. C'est ça qu'on veut faire? C'est ça qu'on veut faire cette semaine? Moi, je vous lance le défi, là. Partagez ça à des frères, des sœurs de l'Assemblée, là, allez dîner, vous écoutez, moi, cette semaine, prie pour moi, moi, je veux regarder chaque péché que le diable va me mettre devant moi et je veux regarder à Jésus-Christ 10 fois. D'accord? Ça, c'est un beau défi qu'on se lance cette semaine. On va commencer tout de suite avec la Sainte Cène. On va commencer tout de suite avec la Sainte Cène. On va penser à ce que Jésus a fait. On va porter nos regards sur Jésus-Christ. Et moi, j'inviterais ceux qui sont assignés, affectés, à distribuer les éléments ce matin, le pain et la coupe. Et on vous encourage, si vous êtes nés de nouveau, vous avez été baptisés, on vous encourage à partager la Sainte Cène avec nous ce matin. Moi, je devrais enlever ça, là. Venez-vous-en, les frères, là.